De nombreuses afflictions parcourent le monde de l'Entre-Terre, chacune semblant être intimement liée à une divinité extérieure. On peut citer parmi les plus connues la putréfaction, le saignement, incarné par la mère informe, ou encore la malmort provoquée par la transformation de Godwin le Doré en prince de la mort. Mais parmi toutes ces afflictions, il en existe une dont personne ne parle, peut-être par méconnaissance, mais qui n'en est pas moins importante. Je veux parler de la malédiction des sans-âmes. Les sans-âmes sont évoqués assez rapidement dans le jeu, et par continuité, le demi-dieu sans-âme, nom qui a instinctivement été attribué à des personnages comme Godwin ou Melina. Je m'en vais aujourd'hui vous expliquer pourquoi, à mes yeux, ni Godwin ni Melina ne peuvent être présentés comme le demi-dieu sans-âme, et quelle est la véritable histoire derrière cette malédiction. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue pour plonger à nouveau avec moi dans les méandres du lore d'Elden Ring. Lors de votre exploration de la péninsule larmoyante au sud de l'Entre-Terre, à proximité du premier mausolée et des chevaliers sans tête le protégeant, il se peut que vous soyez tombé sur un esprit à proximité de l'église de Marika. On croise un grand nombre de ces êtres éthérés un peu partout en Entre-Terre, et ils ont toujours des informations plus ou moins importantes à nous fournir. Le fait est que celles données par cet esprit nous donnent vraiment à réfléchir. Le mausolée est en chasse. Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme. Ô Marika, reine éternelle, il s'agit de votre enfant non désiré. On parle ainsi d'un des enfants de Marika, ce qui a poussé pas mal de monde à penser qu'il pourrait s'agir de Godwin le Doré. Alors pourquoi, d'après moi, il ne peut pas s'agir de Godwin? Eh bien pour la simple et bonne raison que Godwin n'est pas un enfant non désiré. Comment pourrait-on imaginer que ce descendant direct de Marika et Godfrey, présenté comme l'enfant le plus cher de Marika, un être si puissant qu'il a réussi à charmer les dragons et à prendre à son service la liche draconique Fortisax, comment pourrait-on penser que cet être nous soit présenté comme un enfant non désiré? De plus, Godwin n'est pas né avec l'affliction d'un sans-âme, il est devenu, lors de la nuit des couteaux noirs. Lors de cet événement tragique, des assassins, missionnés par Marika ou Rani, faites votre choix, ont enduit leur lame d'un glyphe lié à la rune de mort, dans l'optique de pouvoir s'en prendre au demi-dieu et en première ligne à Godwin le Doré. L'âme de ce dernier fut alors séparée de sa chair et il devint le prince de la mort, infectant les racines de l'arbre-monde sous Leyndell et propageant la malmort en Entre-Terre. Par la suite, les mortes-fleurs, fragments éparses de la rune de mort, commencèrent à pousser un peu partout, comme une énième manifestation de cette divinité liée à la mort, vénérée dans un lointain passé par l'ordre Sanctechair et la reine crépusculaire. Le corps de Godwin sous Leyndell commença alors à muter, pour se transformer en une espèce de sirène difforme et une tête ressemblant à un coquillage. D'après une vidéo de Zully the Witch, on peut y voir un lien avec le Ningyo, une sirène maudite du folklore japonais. Mais une ressemblance avec le Shoggoth, un monstre de la cosmogonie lovecraftienne, est également frappante. Et si Marika, dont on suppose que les sentiments envers Godwin étaient plus que douteux, accablée par le remords d'avoir provoqué la fin de son propre fils, avait tenté de se reproduire avec ce dernier de la même façon que Fia tente de le faire à la fin de sa quête. De cette relation incestueuse serait alors né un enfant non désiré, le premier demi-dieu sans âme, et une nouvelle maladie se propageant en Entre-Terre, la malédiction des sans-âmes. Certaines personnes pensent que derrière l'identité de cet enfant non désiré pourrait se cacher Mélina, ce qui n'a selon moi pas lieu d'être, car Mélina n'est pas un être sans âme, mais sans corps.
Me, I'm searching for my purpose, given to me by my mother inside the Earth Tree, long ago, for the reason that I yet live, burned and bodiless.
De son aveu même, elle nous explique dans un de ses dialogues être bodiless en anglais, à savoir sans corps, sans enveloppe charnelle. Pour ceux qui pensent qu'elle possède un véritable corps parce qu'elle peut nous toucher au début du jeu, c'est une justification qui ne tient pas, car il y a en effet quantité d'exemples dans le jeu, esprit, projection, invocation, qui peuvent interagir avec nous sans avoir d'enveloppe physique. Mélina est donc tout le contraire d'un demi-dieu sans âme. Elle est justement une âme dépourvue de corps. L'histoire de Godwin, de Mélina et celle de l'affliction des sans-âmes sont donc trois choses bien distinctes, et ce qui a fini de me convaincre, je l'ai trouvé dans la description des cendres de soldats du mausolée, des soldats qui se décapitèrent eux-mêmes pour suivre leur maître, des demi-dieux dépourvus d'âme et inhumés dans le mausolée. Je dis bien des demi-dieux sans âme. Ainsi, il n'y a pas eu qu'un seul demi-dieu sans âme, mais plusieurs, témoignant d'une affliction qui s'est développée progressivement en Entre-Terre. Attention, je ne dis donc pas que Godwin n'est pas un sans âme, je dis qu'il n'est pas le seul et qu'il est certainement le père du tout premier demi-dieu sans âme à être apparu en Entre-Terre. Par la suite, d'autres demi-dieux sans âme continuèrent d'apparaître parmi la lignée d'or, comme une maladie se propageant. Mais vous connaissez Marika, elle a plus d'un tour dans son sac, et plutôt que de subir cette malédiction, elle décida de l'utiliser à son compte. Les dépouilles des demi-dieux sans âme furent alors enfermées dans des mausolées, sortes de cénotaphes qui permettront de cloner ou copier le souvenir d'un autre demi-dieu, lui assurant une vie même après la mort. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point Marika était obsédée par l'immortalité. Je pense même qu'on a pu voir naître des sans-âmes en dehors de la lignée d'or, et ceci me semble être confirmé par le personnage de Encha, que vous croisez au bastion de la table ronde, et qui est présenté comme un antique souverain, le roi sans-âme, le seigneur des égarés et des désespérés. Est-il un sans-âme lambda? Le premier demi-dieu sans âme rejeté par Marika, ou l'un de ses successeurs, difficile à affirmer. Dans le même temps, un groupe de soldats se portèrent volontaires pour assurer la sécurité de la dépouille de leurs anciens maîtres. Il s'agit des acéphales, ces fameux soldats se trouvant autour de chaque mausolée, qui se décapitèrent eux-mêmes et semaient la confusion chez l'ennemi en disparaissant et réapparaissant sans cesse. À la tête de ces acéphales se trouvait une chevaleresse du nom de Lutel, qui offrit sa vie pour continuer à défendre l'un de ces demi-dieux dépourvus d'âme en attente de sa résurrection. Et si je vous disais qu'à plus long terme, les sans-âmes décidèrent de s'unir sous une même bannière et de fonder leur propre culte? Vous en avez peut-être croisé certains éléments sans même faire le rapprochement. Il s'agit du culte de l'éclipse solaire. Ce culte est bien visible sur le bouclier des soldats acéphales, où l'éclipse solaire est interprétée comme un symbole du mausolée errant où sommeillent les demi-dieux dépourvus d'âme. On retrouve ce symbole un peu partout au château de Solcastel, qui semblait tenir lieu de bastion aux sans-âmes et à l'un de leurs demi-dieux, en témoigne le mausolée présent à l'entrée du château. Au sein de l'église de Solcastel, vous trouvez d'ailleurs le chautel de l'éclipse, une arme ornée d'un soleil éclipsé dénué de couleurs. On y lit qu'à Solcastel, la vue d'une éclipse est une source d'émerveillement, ce qui empêche quiconque d'en détourner le regard. Par définition, une éclipse solaire se produit lorsque la lune se place devant le soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du soleil depuis la terre. Ce qui semble rapprocher ces sans-âmes de l'état d'esprit des Nocriens ou de Rani, dans leur volonté de supplanter le soleil. Ainsi, le culte de l'éclipse n'est aucunement à rapprocher de l'ordre d'or, mais plutôt de la divinité responsable de leur condition. Mais de quelle divinité parlons-nous ici ? Selon toute vraisemblance, il s'agit encore une fois de la divinité liée à la mort, et plusieurs éléments viennent en attester. Premièrement, la cendre de guerre du chautel de l'éclipse, qui embrase le soleil terne à l'aide des flammes du prince de la mort, infligeant de la malmort aux ennemis touchés. Cela confirme donc le lien mentionné plus tôt entre Godwin et l'apparition des sans-âmes. Cette idée est également validée par l'arme de Lutel l'Acéphale, une lance chargée d'énergie mortifère, l'adjectif mortifère se rapportant évidemment à la mort. Il semblerait qu'à plus long terme, les sans-âmes de Solcastel aient attiré l'attention de Mikaela l'Empyréen, alors qu'il était avec son arbre sacré à l'apogée de sa puissance. Un dialogue avec un esprit au sommet de la plus haute tour de Solcastel nous met sur la voie. « Seigneur Mikaela, pardonnez-moi, le soleil n'a pas été englouti. Notre ferveur n'a pas été suffisante. Votre camarade n'a pas recouvré son âme. Jamais je ne pourrai contempler votre arbre sacré. » Il semblerait donc que Mikaela ait chargé les sans-âmes de Solcastel d'une mission, celle d'engloutir le soleil. Il aurait vu dans le culte de l'éclipse un moyen de se débarrasser définitivement de cet astre, et donc de l'ordre d'or, qui bousculait encore son hégémonie. En échange, il leur aurait alors promis de les accueillir au sein de son arbre sacré. Je pense que c'est à peu près au même moment que le commandant Nial, l'un des plus fidèles combattants de Malenia, prit la tête de Solcastel. D'après la description de sa prothèse de vétéran, on apprend qu'il offrit cet objet en échange de la vie de plusieurs chevaliers vaincus retenus prisonniers. Il devint ensuite leur chef et fonda une armée sans nation. Ce sont ces chevaliers sans âme que vous croisez un peu partout à Solcastel, qui peuvent disparaître et réapparaître à volonté, mais qui, au contraire des acéphales, n'ont pas eu besoin de se décapiter. On peut donc supposer que l'Ordre d'Or se soit à un moment attaqué au bastion de Solcastel, et que les sans-âmes y siégeant ne doivent leur salut qu'au commandant Nial. Ce dernier en profitera d'ailleurs pour cacher au sommet de Solcastel l'un des médaillons permettant d'accéder à l'arbre sacré de Mikaela. Et lors de votre combat contre lui, vous constaterez qu'il se bat aux côtés de deux puissants guerriers sans âme. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que Mikaela voulait vraisemblablement permettre à un demi-dieu de recouvrer son âme, et que la destruction du soleil pourrait aller dans ce sens. S'agissait-il de Godwin, ou alors du demi-dieu qui dirigeait les sans-âmes de Solcastel, ce personnage étant présenté comme son camarade? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que les sans-âmes échouèrent dans leur mission, abandonnant de fait leur droit d'asile au sein de l'arbre sacré. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Mikaela et ses objectifs, il vous faudra être patient et attendre une de mes prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à visionner celle-ci, une vidéo un peu plus courte que d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format un peu plus short d'une dizaine de minutes vous convient. Il y a des chances qu'il y ait d'autres vidéos sous ce format dans le futur. Je suis très content d'être de retour, avec plein de belles choses qui arrivent, des nouveaux let's play sur Twitch avec du Batman Arkham Knight et du Bioshock Infinite, le let's play de Bloodborne sur YouTube, et encore pas mal de vidéos sur le lore d'Elden Ring. Comme vous le savez, j'ai aussi ce grand projet de réaliser un film de 2h-2h30 sur l'intégralité du lore. Ces projets ne peuvent pas fonctionner sans vous et votre soutien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou sur la page Utip de la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao.